Tu fais quoi demain après-midi?
T'es drôle, toi, on a Radio Ballon, non?
Oui, mais admettons qu'on avait congé, par exemple.
Ah oui, d'accord. Alors, je reste à la Braille.
Bonne idée, la Braille. Juste en face de la gare, tu descends les escaliers, tu t'engrouves dans la jolie cabine bleue et te conduis à Praperon.
Et ensuite, tu prends le télésiège qui monte jusqu'au sommet, à côté du restaurant.
Au pied du rocher du midi.
Tu sais depuis quand peut-on skier sur ce domaine?
Non, pas vraiment, on n'était pas nés, je pense. Mais ce que c'est qu'on était à deux doigts de ne plus pouvoir en profiter.
Ben oui, l'été dernier, la décision a été prise de fermer les installations et au dernier moment, des parents ont décidé de s'engager financièrement pour permettre au domaine d'ouvrir cette année encore.
Justement, l'avenir de la Vaille, c'est le sujet du jour. Pour en parler, nous accueillons Monsieur Didier Morieux. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Alors, moi, je suis Didier Morier, je suis président du conseil d'administration des remontées mécaniques de la Braille. Et contrairement à ce que vous avez dit avant, notre directeur, c'est Michel Berthollet, qui s'occupe des installations et de la partie technique et de l'exploitation.
Pouvez-vous, en quelques mots, nous raconter l'histoire des installations de la Braille?
Alors, quand ça s'est construit, moi, j'étais pas né non plus. C'était dans les années 57 où ils ont commencé à construire. Et l'inauguration des installations, donc du téléphérique et de télécabine, c'était un petit télécabine avant. L'inauguration était l'hiver 58-59. Il faut savoir qu'avant le télésiège, il y avait des petites cabines, des œufs, comme on appelle, à deux places, des petites cabines rondes, rouges, qui allaient jusqu'au sommet, qui étaient très très loin, qui n'avaient pas un grand débit au niveau nombre de skieurs qui montaient. Et la première cabine qui était en bas, la téléphérique, c'était une cabine rouge aussi, également, à l'époque.
Qui a eu l'idée de créer ces installations?
Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un monsieur Juvet, qui habitait à Châteaudet depuis plusieurs années, et un monsieur Antoine Favrocoun, qui était aussi médecin à Châteaudet, qui est un des arrière-grands-parents des Favrocoun d'aujourd'hui. Et eux étaient dans l'équipe qui se sont mis en route pour essayer de construire ce téléphérique et ce télécabine jusqu'à... Le projet initial était même d'aller jusqu'au sommet du Rocher du Midi. Ils avaient l'idée d'aller jusqu'au sommet du Rocher du Midi et ils avaient même le projet de faire un restaurant tournant. Il y avait plein d'idées avant-gardistes pour l'époque et même de faire un téléphérique qui allait... Au lieu que le téléphérique était grand comme actuellement, l'idée était même de faire des cabines qui allaient au Grange D et qui seraient montées. On aurait peut-être pu skier jusqu'au Grange D et en même temps, ça aurait fait un transport public pour les gens des Grange D parce qu'à l'époque, il y avait très peu de voitures. Quoi.
Comment ces installations ont été financées à l'époque?
Alors, comment elles ont été financées, je ne sais pas exactement. Je sais que c'était certainement, comme aujourd'hui, pas facile de trouver de l'argent. Mais voilà, c'était des gens qui avaient des projets, qui avaient des idées. Je sais que M. Juvet a dû aller à Berne pour défendre son projet, pour essayer de convaincre aussi et d'avoir des appuis. Donc c'est vrai que c'était déjà pas toujours facile de mettre en place un gros projet comme celui-là.
Y a-t-il eu des difficultés pour trouver pour cette construction?
Alors, pour la construction, il y a certainement eu des difficultés parce qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. C'était quand même quelque chose d'important qui se construisait là. Une petite anecdote que je connais, c'est que un des messieurs, parce que quand vous voulez tirer un câble, vous devez commencer par tirer une ficelle, tirer un câble toujours plus gros pour arriver à tirer le câble du téléphérique. Et je sais que la première ficelle qui tire, le monsieur a dû traverser la Sarine à pied pour tirer sa ficelle pour pouvoir après tirer les câbles suivants sur les pylônes. Quoi.
À l'époque, des gens se sont opposés à cette construction?
Alors, à ma connaissance, pas autrement. Il y avait peut-être moins d'opposition et de réaction qu'aujourd'hui. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui disaient déjà à l'époque qu'ils étaient complètement fous de construire un téléphérique là parce que c'était déjà trop bas d'altitude, qu'ils n'auraient pas toujours de la neige. Donc déjà à l'époque, ils parlaient de ça dans les années 58, par là autour. Donc voilà, il y avait déjà des réactions de gens qui n'étaient pas forcément pour ou bien qui étaient surpris, disons, que ça marche de faire quelque chose là, quoi.
A-t-il été difficile de trouver l'argent?
Alors, ça, je pense que c'était aussi un grand défi pour ce genre de choses. C'est vrai qu'à l'époque, à Châteaudet, il y avait plus de tourisme, plus de gens étrangers qui étaient dans la région. Il y avait un tourisme assez important. Il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient en station à Châteaudet. Donc, il y avait un essor touristique qui était assez important. Et puis les coûts et les problèmes administratifs qu'on a aujourd'hui, ils en avaient peut-être certainement un peu moins. Mais je pense que pour trouver de l'argent, ils ont aussi dû faire un gros travail pour y arriver, quoi.
A-t-il eu des difficultés techniques ?
Alors, les difficultés techniques, moi, je ne connais pas autrement parce que j'ai pas eu trop d'informations sur ça. Mais je pense que par rapport à l'époque, ils avaient aussi leurs soucis. Comme nous, on a aujourd'hui nos soucis. Je crois qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé. Malgré que il faut aller de l'avant, quoi.
Comment s'est développé le domaine skiable de la Braille ?
Alors, moi, je ne me rappelle pas de la construction du téléphérique et des petites cabines des œufs. Par contre, je me rappelle qu'il y a eu... Ça, c'était les années où moi, je commençais à faire du ski, que j'étais enfant. J'allais à l'école, puis le mercredi après-midi, on faisait comme vous, on allait skier à la Braille. Et c'est vrai qu'on avait un service de bus, on pouvait descendre jusqu'à Gérigneau en ski, mais il n'y avait pas de télésiège de Gérigneau. Donc, on devait prendre le bus. Il y avait un service de ski bus qui partait de Gérigneau à Châteaudet. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le bus pour revenir au départ du téléphérique, puis on remontait pour faire les plus grandes descentes sur Gérigneau. Et puis, c'est vrai que, comme je vous disais, le débit des skieurs, il y avait souvent des grandes colonnes à Praperon. On attendait beaucoup le soir aussi pour reprendre la cabine pour descendre. Alors, il y a eu ce projet de faire le télésiège de Gérigneau et le téléski de Boischneau pour désengorger un petit peu les jours d'affluence, et puis surtout d'augmenter le domaine skiable. Alors ça, je me rappelle, c'était dans les années 75, c'était quelque chose de génial, parce que voilà, on n'avait plus besoin de prendre de skibus pour faire des descentes là. Et dans les années 70, c'est vrai que c'était des années où on avait beaucoup de neige, jusqu'au fond de vallée, quoi.
À partir de quand y a-t-il des problèmes techniques, baisse de nombre de personnes, manque de neige ?
Alors, moi je sais que... Les problèmes de manque de neige, c'est un peu des cycles. Hein. Il y a eu souvent des cycles. Je sais par exemple qu'en 1964, ils avaient ouvert la piste des Rios. Je ne sais pas si vous connaissez où c'est, la piste des Rios. Mais où il y a le gros pylône actuellement, toute cette pente, c'était un ski lift. Il y avait un petit ski lift. Et là, ils avaient, en 1964, ils avaient mis les premiers canons à neige. C'était des canons comme des canons tirés, mais qui fabriquaient de la neige. Et il n'y avait pas de neige à nulle part, même en Suisse et même partout. Il y avait cette tache blanche là où ils avaient pu faire des canons à neige. Donc en 64, il y avait déjà eu des cycles où il y avait moins de neige que d'autres années, quoi. Puis dans les années 70, 75, on avait beaucoup de neige. On n'a pas trop. Mais c'est vrai que un des premiers soucis que j'ai entendu qu'il y avait, c'était que les premières machines à pister sont arrivées. Les machines à pister, c'est des machines qui coûtaient très cher, qui consomment beaucoup de carburant, qui demandent des heures de travail pour pister les pistes. Parce qu'à l'époque, les gens skiaient sur les pistes, à force de skier, on pistait les pistes, quoi. Et puis quand les machines sont venues à pister, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais depuis qu'il y a les machines, c'est des énormes frais, ça va coûter aux installations. Voilà. Ça, c'était déjà les premiers soucis que j'ai entendu qu'ils avaient à une époque. Et puis c'est vrai que dans les années 90, par là autour, c'est vrai que les risques de pluie, il y a de moins bon enneigement commençaient déjà à apparaître, quoi. C'était déjà des problèmes qu'il y a eu à ces époques, quoi.
Merci de toutes ces informations. Nous nous retrouvons juste après une pause musicale.
Je tiens plus debout, si crevé qu'un danseur.
On sait que le domaine de la braille est en sursis. On souhaiterait savoir comment elle est arrivée à cette situation et d'autres termes. À partir de quand le souci a commencé et pourquoi ?
Alors, ben les soucis, c'est vrai que c'est beaucoup des soucis financiers. Ça, c'est le gros problème. En 1993, les installations étaient vétustes et puis il y avait des obligations parce qu'il y a l'Office fédéral des transports qui édicte des normes où on doit avoir les installations en état pour des questions de sécurité. Et puis ça découle sur une concession qui est donnée à l'exploitation. Et c'est vrai que dans les années 93, il y avait certaines exigences par rapport au téléphérique et les télécabines qui devaient être vraiment rénovées. Et il y a eu une rénovation complète. Et c'est depuis là qu'il y a eu un télésiège sur la partie du haut et les nouvelles cabines bleues qu'on voit maintenant qui a été rénovée entièrement en 93. C'est clair que ça a coûté plusieurs millions. Il y a le canton qui a mis de l'argent, il y a la commune qui a mis de l'argent, il y a des recherches de fonds avec des privés qui ont soutenu ça. Mais le gros problème, dès que ça a pu se construire, donc les installations étaient neuves à ce moment-là, le grand problème, c'est que l'exploitation, chaque année, c'est clair que le nombre de skieurs doit être suffisant pour pouvoir couvrir les frais d'exploitation de l'installation. Et puis, vu que c'était les années où il y avait moins de neige, le ski commençait à venir cher, il y avait moins de skieurs que ce qu'il y avait auparavant. Et là, il y a eu des problèmes réguliers de financement pour couvrir les charges et les pertes chaque année, à chaque saison. Et là, la commune, depuis 93, a mis régulièrement de l'argent pour soutenir ça jusqu'à l'année passée, quoi.
Y a-t-il eu des problèmes précis qui expliquent la situation actuelle de la braille ?
Alors, les problèmes précis, c'est que... Alors, bon, les questions que j'ai évoquées avant, mais le grand défi aussi, c'est que les installations de la braille étaient liées avec le domaine de Gstaad, et puis il y avait des tarifs par rapport à la braille qui étaient relativement élevés par rapport à l'offre du domaine skiable. Et ça, c'était aussi un des éléments. Alors, c'est clair que les gens qui avaient l'abonnement de Gstaad pouvaient venir skier à la braille. Ça, c'était aussi des gens qui apportaient aussi des ressources financières. Et puis, c'est clair que la partie de Gérignaux, par exemple, qui avait pas d'enneigement artificiel, qui a dû être régulièrement fermée à cause du manque de neige, a prétérité, disons, les comptes d'exploitation au fur et à mesure.
Y a-t-il eu des problèmes de personnel?
Alors, des problèmes de personnel pour cet hiver ou bien avant?
En général.
En général? Alors, les problèmes de personnel, c'est un problème... Il n'y a pas forcément de problème. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est de trouver des gens qui soient disponibles seulement la saison d'hiver, parce que c'est vrai que c'est souvent des travaux saisonniers. Hein. Donc, souvent, c'est des gens qui ont d'autres activités l'été ou qui font des trucs de sport, ou bien des agriculteurs qui ont moins de travail l'hiver. Donc, il y a eu souvent, régulièrement, des gens comme ça qui venaient travailler. Quoi.
Le manque de neige explique-t-il la situation ?
Alors, le manque de neige est une des raisons pour laquelle il y a cette situation, ça c'est sûr. Après, le, le coût peut-être de ce genre d'installation où les gens, peut-être les grands skieurs, préfèrent aller sur des grands domaines skiables, ça c'est peut-être aussi un autre élément qui faisait que le prix venait peut-être un petit peu élevé par rapport à l'offre qu'on pouvait offrir, quoi.
Pour que l'on comprenne bien c'est ce qu'une installation implique, pouvez-vous nous dire quelles sont les exigences liées à l'entretien et la sécurité des installations?
Alors, les exigences, c'est que toutes les installations doivent être contrôlées, vérifiées régulièrement. Il y a des entreprises spécialisées qui viennent faire des audits ou qui viennent faire des contrôles. Par exemple, cet hiver, on devait, pour ouvrir, par exemple, on avait une révision des câbles du téléphérique qui devait être faite. Ces câbles, c'est clair que normalement, tous les temps d'année, ils doivent être déplacés pour ne pas être toujours appuyés sur le même endroit au niveau des poulies. Ils doivent être radiographiés. Donc là, ils ont pu faire une radiographie de l'ensemble du câble pour être sûr que le câble était en parfait état. Donc, il était en parfait état. Ils ont contrôlé sous les câbles, sous les poulies, pour voir s'il n'y avait pas de rouille, s'ils n'étaient pas abîmés. Donc, tous ces contrôles ont été faits par des entreprises spécialisées et puis qui donnent un rapport comme quoi l'installation est conforme et en ordre. Et puis, tous ces contrôles réguliers qui doivent être faits sont transmis comme information à l'Office fédéral des transports à câbles qui, eux, suivent pour être sûr que tout a été fait dans les règles de l'art et peuvent tout d'un coup faire peut-être une fois un contrôle sporadique pour s'assurer que les choses soient conformes. C'est surtout une question de sécurité pour le transport des personnes. On ne peut pas se permettre d'avoir un accident. Donc le but, c'est vraiment de limiter ça au minimum, quoi.
Les installations auraient dû être mises en service cet hiver. Pouvez-vous vous expliquer comment vous auriez pris pour faire fonctionner le domaine cette saison d'hiver?
Voilà, oui. Alors, c'est vrai que la commune a décidé de ne plus soutenir financièrement les téléphériques de Châteaudet parce que c'était une question de budget. La commune a des situations aussi d'autres priorités financières. C'est compliqué pour eux. Et l'idée, c'était de plus soutenir ces versements d'argent. Donc, le grand défi qu'on avait, la commune mettait 350 000 francs par année pour couvrir le déficit. Mais le grand défi qu'on avait, c'est que nous, les installations pouvaient fonctionner vu qu'on a fait ces contrôles, comme je vous expliquais avant. Mais le problème, c'est qu'il fallait avoir de l'argent liquide pour pouvoir mettre en route les travaux, mettre en route la saison, avoir de la liquidité. Et puis, surtout, c'est que si on a un hiver qui se passe pas très bien et qu'on a un déficit, il fallait qu'on puisse avoir une couverture du déficit parce qu'autrement, il n'y a plus personne derrière pour nous soutenir et nous aider. Et l'opportunité qu'on a eue, c'est qu'on avait besoin d'environ 300 000 francs pour garantir le déficit. Et on a trouvé 30 parrains qui étaient disposés à nous prêter 10 000 francs. Et le prêt de ces 10 000 francs de ces 30 parrains nous permettait d'avoir la couverture de déficit au cas où. Et prenaient le risque avec nous, si jamais ils doivent participer, de laisser quelque chose en fonction. Alors là, cet hiver, on a bien démarré la saison. On a la chance de peut-être pouvoir en tout cas rembourser une partie à ses parrains. On espère que ça puisse continuer, qu'on pourra rembourser le maximum pour arriver à un déficit minimum de la saison.
En tout cas, nous, on est très contents de pouvoir skier ici à Châteaudet. On fait une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite après ça.
Sometimes life ain't always the way.
Quand on vous disait à l'instant, nous sommes contents, on peut aller skier sans problème. Mais on est conscient que la solution trouvée n'est pas perdurée. Au-delà de cette saison, quels sont les projets liés à ce domaine?
Alors, c'est vrai que notre but était déjà de pouvoir ouvrir cet hiver, de lancer l'idée du produit Yeti Pass. L'idée, c'était de faire un forfait qui soit abordable pour les familles, pour une toute autre clientèle que les skieurs habituels qui vont sur des grands domaines. C'était plutôt d'offrir un abonnement pour des familles avec des enfants qui faisaient peut-être plus de ski ou qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller. Et c'est vrai que là, le pari a été gagné parce qu'on a beaucoup de cette clientèle-là qui est venue. On a aussi une clientèle qui vient peut-être que pour se balader à pied, qui vient manger au restaurant pour un forfait à 99 francs par année, par saison. Et puis c'est vrai que ça, c'est une toute nouvelle clientèle qu'on a trouvée. Donc ça, c'est un des premiers paris pour cet hiver. La deuxième étape, c'est vrai qu'on a ce problème qu'on parlait avant de sécurité et d'installation. Pour l'hiver prochain, on a un montant important pour mettre en état les installations au niveau de réobtenir la concession. Donc là, en fonction des résultats de notre saison, on va s'atteler à chercher des fonds, à chercher des personnes qui sont prêtes à nous soutenir et à élaborer un projet, surtout un projet 4 saisons, quoi. Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser les installations sans neige ou à d'autres saisons que quand il n'y en a que la neige en hiver, quoi.
À l'heure actuelle, où en est ce projet?
Alors, le projet Edelweiss Paradise, qui était un projet qui avait déjà été préparé avant, il y a tout un groupe de travail qui s'était mis en route dans les années 2010, par là autour. C'est tout un travail qui a été préparé avec un genre de parc d'attractions sur le site, qui doit être... aujourd'hui, on va le reprendre, on va revoir un peu ce qui est possible, ce qui est dans nos finances, ce qu'on peut faire par étapes. Mais notre idée, c'est vraiment de diversifier l'activité et de convaincre des gens qui seraient prêts peut-être à nous financer avec un projet qui est porteur et qui est un peu... qui apporte une nouveauté, quoi.
Où on peut trouver des informations à ce sujet?
Alors ça, vous pouvez trouver certaines choses sur le site internet de Téléchâteaudet. Il y a aussi un site internet où il y a Edelweiss Paradise, où il y a des informations. Il y a eu des informations dans le journal. Il y a d'autres informations qui vont suivre aussi au fur et à mesure que ça avance. Donc, voilà, les canaux habituels où on trouve de l'information, quoi.
À combien ce projet est-il estimé?
Alors, nous, on a besoin d'environ 3 millions, 3 millions et demi pour remettre entièrement les installations en état, qu'on pourra faire par échelonnement. Mais c'est-à-dire que si on met pour 3 millions et demi d'installations, de rénovations, on est bon pour 15-20 ans avec les installations. Donc, il faut qu'on trouve ces montants-là pour cette partie mécanique. Et puis l'autre question, c'est que le projet Edelweiss, il y avait un projet qui était d'environ 5-6 millions, mais il faut qu'on voit ce qu'on peut faire par étape ou qu'on peut trouver peut-être un projet un peu moins cher pour arriver à quelque chose qui soit réaliste pour nous.
Comment ce projet sera-t-il financé?
Alors l'idée, c'est de trouver des personnes qui sont convaincus de notre projet, qui ont soit déjà qui ont peut-être des moyens de nous soutenir financièrement, de faire appel peut-être à la population, de faire appel aux personnes de la commune, quoi, qui seraient prêts à se dire, on peut soutenir à titre privé ces installations. C'est vrai qu'en 93, comme je disais avant, qu'il y avait eu ces réparations, il y a eu pas mal de gens qui ont mis de l'argent, mais même des privés, qui ont mis 50 francs, 100 francs, 1000 francs, jetons. Et avec ça, on dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. On va essayer de trouver tous ces arrangements.
Ce sujet est bien soutenu dans la région?
Alors, c'est vrai qu'on a un bon écho par rapport à la réouverture. Comme vous avez dit aujourd'hui, vous êtes content de skier. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents que ça ait été rouvert. On comprend aussi que nos autorités ont des soucis par rapport au financement, parce qu'ils ne vont pas pouvoir nous soutenir financièrement. Donc voilà, il y a des gens qui ont peut-être jamais aimé la braille, il y a des gens qui aimaient bien la braille, voilà. Après, c'est un débat, des avis de chacun, mais ça, il faut faire avec, quoi.
Avez-vous encore quelque chose à ajouter que nous aurions oublié de vous demander?
Eh bien, écoutez, une des choses qu'on a fait cet hiver et qu'on est content, c'est le restaurant, la rénovation du restaurant intérieur. Je ne sais pas si ça avait été, mais l'idée, c'était de faire quelque chose d'accueillant, de pouvoir redémarrer une saison où on puisse accueillir des gens. On a eu beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés à mettre en place ce restaurant parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Mais c'est vrai que c'est chaleureux, c'est agréable. Et puis, on a un bon tenancier. Vous pouvez aller manger une assiette, manger des frites que vous allez mettre l'après-midi. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir déjà cette première étape qui a été passée. Quoi.
Monsieur Moret, merci infiniment d'être venu nous parler de la Braille. On vous souhaite plein de succès avec ce projet. Bonne continuation. Pour terminer, on vous propose d'écouter un peu de musique.